Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Pierre Bonnet, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Bruxelles Sceptico Pub lorsque j'ai donné ma conférence sur les créatures japonaises. Et c'est donc un philosophe qui a travaillé sur la philosophie japonaise. Bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ça va, ça va. Bah, je dois dire que je suis content d'avoir enfin quelqu'un pour parler de la philosophie japonaise, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup moi-même, comme j'ai travaillé un peu dessus dans le cadre de mes études en philo, mais comme tu t'en doutes, c'est difficile de trouver quelqu'un pour en parler.
On est très peu nombreux, en effet.
Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Merci aussi à Dorian Nerdals de m'avoir présenté et de m'avoir signalé la chose quand tu es venu à Bruxelles Sceptico Pub. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la philosophie japonaise?
Personnellement, la philo et moi, c'est quelque chose de très très lointain en fait, parce que je me suis. Je pense que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la philosophie vers l'âge de 17 ans, si pas 16 ans. Bon, il y a des gens qui ça a commencé plus tôt, mais pour moi, c'est déjà tôt. Et j'ai commencé en fait par lire Nietzsche à l'époque. Et ça remonte à, oui, il y a plus de 15 ans maintenant, c'est pas presque 20 ans en fait. Et voilà, de lecture en lecture, bah, j'en suis arrivé simplement à une philosophie différente qui est celle du Japon. Alors évidemment, il y a tout un débat autour de savoir ce qu'est la philosophie du Japon. Ça, je suppose qu'on en parlera un peu plus tard. Mais donc voilà, c'est mes premiers pas dans la philosophie. En tout cas, c'était un travail que j'ai proposé à mon professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire, et c'était à propos de Nietzsche. Voilà, en gros, c'est mes premiers souvenirs philosophiques que j'ai en mémoire, en tout cas. Voilà.
Mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé sur la philosophie japonaise à l'UCL, donc en Belgique. Mais toi, ce qui est vraiment particulier, c'est que tu as étudié carrément au Japon. Comment ça s'est fait, ça, techniquement?
Bah, techniquement, personnellement, j'étais donc dans un milieu très scientifique à la base, parce que j'étais donc en électromécanique. Donc à l'Institut Saint-Joseph, en fait, qui est un institut qui correspond à, en fait, aux études secondaires techniques de l'époque, mais j'étais en fait dans le niveau de général transition. Et donc c'était un cursus qui permettait, en fait, qui nous préparait aux examens d'ingénieur industriel, en fait. Donc j'évoluais dans un milieu très très scientifique. J'avais 8 heures de maths, plein d'heures de physique, beaucoup d'heures de sciences en général. Et des matières qui tournent autour donc de l'industrie, en fait, tout simplement, quoi. Mais en plus de ça, j'avais des cours des cours qu'on trouve en humanité générale, tels que l'histoire, la sociologie, la géographie, des cours de langue poussées, que ce soit en anglais, en français ou en néerlandais. Et c'est dans le cadre donc de ces études que je me suis retrouvé en physique, en fait, à l'UCL. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné, en fait. Parce que, d'après moi, j'étais très jeune, que l'école... c'est un peu comme tous les jeunes, on est tous un peu perdus. À cette époque-là, c'est pas facile de trouver exactement sa voie, et donc, après des années... après une année d'études en physique, qui n'a pas fonctionné, je me suis retrouvé à me demander mais qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et en fait, je me souviens toujours à ce propos-là du débat que j'ai eu avec mon professeur d'histoire, et je lui avais demandé très sérieusement de savoir si c'était préférable pour moi de me diriger soit vers la philosophie, soit vers la science dure, et donc la physique, en fait. Et à l'époque, j'avais choisi la physique. Mais il se trouve que, chemin faisant, les choses... n'ont pas vraiment fonctionné tel que je le présageais. Et je me suis redirigé pour la philosophie, mais par après, en fait. Parce qu'après la physique, je suis parti en Angleterre, où j'ai fait la rencontre de personnes japonaises, en fait. Et je ne me voyais pas du tout revenir, en fait, en Belgique pour étudier la physique. Par contre, j'étais attiré par le Japon, j'étais attiré par, par quelque chose de différent, en fait. Je me suis dit très vite que si je voulais faire quelque chose de ma vie, il faudrait que je fasse quelque chose qui est complètement différent de ce que tout le monde fait. Et donc, je suis parti pour le Japon. Et ça, ça a été ma rencontre avec le Japon, en fait. Je suis arrivé sur place et dans le cadre en fait d'une bourse d'échange d'étudiants entre entre une université anglaise dans laquelle je suis resté un an et des étudiants japonais. Là, je suis resté pendant 2 ans et demi au Nagasaki Junior College où en fait j'ai tout simplement étudié la langue énormément. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis de nouveau très fortement, pendant encore plus que d'habitude, intéressé à la philosophie. Et je me suis en fait tout simplement demandé, parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a plus de 10 ans, il faut se rendre compte de la chose, c'est que quand on partait au Japon, on partait vraiment dans un pays étranger. Il n'y avait pas spécialement, c'était le début d'Internet, c'était aussi le moment où le Japon, c'était vraiment un autre monde. On voyageait pas entre la Belgique et le Japon comme on voyage aujourd'hui. Et donc, je me suis tout simplement posé la question de savoir s'il existait de la philosophie au Japon. Ce que j'ai trouvé dans le très célèbre, un des philosophes les plus célèbres, c'est donc Nishida Kitaro. Et je me suis dit, tiens, il y a des philosophes. Et voilà, séance Nantes, étant donné que j'ai beaucoup d'intérêt pour la philosophie, j'ai continué dans cette direction-là, en lisant certains auteurs et d'autres, et au final, je suis abouti à faire donc une thèse au sein de l'ULB à propos d'un philosophe contemporain qui s'appelle Monte Chozo, qui est plutôt issu de la branche de la philosophie analytique américaine, si pas anglo-saxonne, et qui montre des accentuations, des détails empiristes et pragmatistes assez radicaux, et qui m'intéressent énormément. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à la philosophie japonaise.
Oui, donc évidemment, nous on a tous les deux un peu une idée de en quoi ça consiste la philosophie japonaise, mais donc pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais un peu... tu nous dis, voilà, il y a une philosophie japonaise. Bon, enfin, c'est vrai que tu t'es quand même posé la question à un moment donné, et moi aussi je me suis demandé, est-ce qu'il y a une philosophie japonaise est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une philosophie japonaise et en quoi elle consisterait?
Pour moi, c'est une question difficile à répondre, et c'est une question que j'ai avec mes amis chercheurs, qu'ils soient japonais ou européens. Enfin, on a plus ce débat-là avec les chercheurs européens que les chercheurs japonais, parce que pour un japonais, il est clair qu'il y a une philosophie japonaise. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord distinguer deux choses, c'est que moi, quand je parle de philosophie, j'aime bien parler de philosophie avec les racines grecques qu'on connaît. Avec ces racines grecques, une philosophie est née en Europe, qui ensuite a voyagé, en fait. Elle a voyagé par des chemins très très longs et autant temporels que spatiels, et au final est arrivée au Japon. Il y a donc au Japon des personnes, des chercheurs, des gens, des intellectuels, je dirais, qui font de la philosophie, entre guillemets, européenne ou occidentale, aux racines grecques. À ça, bien évidemment, il faut opposer ce qu'on pourrait appeler des nipologies ou de la japonologie, qui serait plutôt une science qui s'occupe d'interpréter le monde ou d'interpréter les faits du Japon par le prisme de concepts et de paradigmes japonisants. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'on est dans une philosophie? Ça, c'est une question que parfois je me pose sincèrement. Donc, est-ce qu'on peut parler de philosophie qui ne serait sans aucun cas en direct lignée du berceau grec, en fait. Moi, je pense que non. Mais je m'en pose quand même jusqu'à un sceptique, et je me demande donc... en gros, ça pose la question de la philosophie comme, comme universalisme qui serait différent, enfin, qui pourrait naître sur n'importe quel territoire de la Terre et peut-être au-delà, vu que toi, Jean-Michel, tu parles d'ufologie. Donc, est-ce qu'un extraterrestre pourrait être pratiquant de philosophie sans connaître la Grèce? C'est une question qui est parfois très complexe à... Enfin, qui est d'après moi complexe à débroussailler. Voilà. Pour répondre à ta question brièvement, en tout cas.
Mm-hmm. Oui, peut-être pour reformuler, c'est vrai que la philosophie occidentale est arrivée au Japon avec l'ère Meiji, finalement, et puis à l'ère Meiji, et puis finalement la question, c'est est-ce que avant l'ère Meiji, dans la pensée bouddhiste, shintoïste, zen et tout ça, est-ce qu'on est devant une pensée authentiquement philosophique, ou à certains moments en tout cas, ou est-ce qu'on est devant de la religion, de la théologie?
Moi, j'ai à ce niveau-là des idées très claires, parce que je pense, ayant vécu justement au Japon, et peut-être étant pratiquant, ou en tout cas m'intéressant énormément à la philosophie, je ne sais pas si je dois me considérer comme un philosophe, mais il est clair par exemple que pour moi, le bouddhisme, c'est une religion, ce n'est pas une philosophie. Or, je sais très bien que beaucoup de gens, en Europe en tout cas, considèrent le bouddhisme comme étant une philosophie. Mais là, moi, je fais toujours la différence entre deux choses. C'est qu'il faut faire très attention, d'après moi, à ce qu'on appelle justement philosophie de vie. Donc, une manière de vivre son jour le jour, on dirait. Une manière de vivre tous les jours en équilibre avec soi-même et où les choses qui nous entourent. On peut très bien décider de devenir végétarien. On est donc dans dans le cadre d'une philosophie de vie. Le fait d'être végétarien peut être promulgué par une religion. Alors, est-ce que le bouddhisme promulgue ou demande aux personnes qui pratiquent le bouddhisme certaines choses? Non, ce n'est pas le cas, parce que le bouddhisme a justement cette très très grande ouverture d'esprit qui permet en fait d'avoir une vie tout à fait entre guillemets quasi normale sans pour autant ne pas être bouddhiste. Mais par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le bouddhisme en soi, c'est un discours sur ce qui se passe après la mort. Et un discours qui se base sur ce qui se passe après la mort n'est pour moi, dans tous les cas, qu'une religion. Car personne n'a jamais été, n'est jamais revenu de la mort, et donc on ne sait pas du tout si ce qui est prédit dans les actions qu'on peut faire sur Terre aujourd'hui nous permettra ou non d'acquérir une certaine sagesse après la mort. Et on est donc vraiment dans le cadre d'un discours sur l'après-mort, et c'est ce qui me fait pencher, ou en tout cas me dire, que le bouddhisme est sincèrement une religion et qu'elle n'est pas une philosophie. Et je pense que en Europe, on fait souvent le mix de ce concept c'est une question d'histoire, je pense, c'est comme ça que ça, les choses évoluent, mais moi parfois ça me choque de voir cette non-compréhension essentielle de ce que pourrait être le bouddhisme, en fait. Mais bon, après, ce n'est que mon point de vue, évidemment. Mais... Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais Jean-Michel.
Je suis pas loin de, enfin, j'adhère à beaucoup de choses que tu dis. Si je me faisais l'avocat du diable un peu, je dirais que en fac de philo, par exemple, moi j'ai étudié à l'UCL, donc c'est une fac catholique. Ben on a du Thomas d'Aquin, etc. Donc on a quand même des philosophes catholiques où justement la frontière entre le moment où ils parlent de théologie et le moment où ils parlent de religion n'est pas très claire. C'est une sorte de flou. Alors évidemment, on peut lire les auteurs bouddhistes un peu en, avec le même regard, en se disant, bon ben voilà, il faut essayer de discerner quand est-ce qu'ils adressent une question proprement philosophique, de quand ils adressent des questions vraiment purement théologiques, mais bon, c'est finalement forcément assez délicat à faire, et c'est une frontière très floue, quoi.
C'est une frontière très floue, et je pense qu'elle se posera encore très longtemps, cette frontière, parce que même au niveau de la recherche fondamentale en philosophie, même par exemple à l'ULB, si on prend par exemple on sait par exemple que donc l'ULB défend une idée de la philosophie comme pratique vivante et profondément actuelle. Alors quand on parle de pratique vivante, on parle donc de quelque chose qui est vivant et qui bouge et qui tourne et qui saute, qui c'est quelque chose de vivant par essence, en tout cas par ce que on en pense. Et donc, quand on parle de vivant et que à cela, par exemple, moi je pose le terme de philosophie de vie, on voit tout de suite le problème. On est très proche, en fait. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le bouddhisme est une philosophie? Oui, dans une certaine mesure, mais encore faut-il justement fixer les limites, les points de repère, et c'est ce qui, d'après moi, permet d'avancer dans le débat philosophique. C'est la grande rigueur et la grande clarté que l'on veut apposer au discours. Cette question de clarté et de rigueur, c'est très intéressant parce que quand on reprend le terme de philosophie qui se dit tetsugaku en japonais et qu'on le reprend au niveau étymologique, on se rend compte qu'en fait les traducteurs japonais de l'époque ont vraiment pris très au sérieux ce problème de clarté et de rigueur qui se retrouve aujourd'hui dans le terme de philosophie, donc c'est-à-dire tetsugaku. On rentre ici déjà dans des problèmes très techniques et on ne pourra pas en parler beaucoup plus, mais ça se retrouve donc dans une certaine mesure, oui, au Japon on trouve de la philosophie telle que nous l'entendons maintenant. Il faut bien évidemment faire très attention aux pensées, je dirais, qui entoure la philosophie telle que nous l'entendons au Japon, telle que nous l'entendons ici en Europe, excusez-moi, pour bien faire la différence entre ce que pourrait être une question réellement philosophique d'une autre, ce qui n'est vraiment pas une chose facile, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si... tu as d'autres connaissances. Tu connais un peu le débat philosophique, donc et ces problèmes-là. Qu'est-ce que toi-même tu en penses, Jean-Michel?
Oui, moi j'ai tendance à suivre un peu la position de Stevens, hein, Bernard Stevens, donc qui a été mon promoteur de mémoire à la faculté. C'est vrai que lui, d'ailleurs j'ai un peu essayé d'expliciter, mais donc il considère, c'est vrai que c'est difficile, je devrais pas parler pour lui, mais la façon dont je le comprends en tout cas, c'est qu'effectivement, il y aurait une philosophie proprement japonaise, mais antérieure à Meiji, mais qui serait donc effectivement ces auteurs, des auteurs religieux, mais qui auraient, quand on retire les aspects théologiques et qu'on ne concerne que les aspects philosophiques. Et puis alors, ce qui est important, c'est que ces auteurs-là ont évidemment influencé particulièrement l'école de Kyoto, quoi. Donc, on sait bien que Kitaro Nishida a repris c'est basé sur les auteurs zen, etc. Donc, c'est ça aussi, je pense, une des difficultés avec une distinction très nette, c'est que l'école de Kyoto, comme elle a essayé justement de traduire en termes philosophiques occidentaux les intuitions de la philosophie, de la pensée japonaise pré-Meiji, je dirais que c'est quand même difficile de faire complètement l'impasse dessus, quoi. C'est un peu.
C'est très difficile. Mais c'est un débat très intéressant, hein, de pouvoir justement élaguer les concepts purement japonais de ce que pourrait être une vraie question philosophique au sens où nous l'entendons en Occident. Je ne sais pas si cette façon de travailler est légitime, mais en tout cas, ça peut être une base de travail.
J'aimerais bien que tu nous présentes un peu ton mémoire aussi. Tu peux nous expliquer un peu sur quoi tu as travaillé, quelle était la question que tu as abordée dans ton mémoire.
Eh bien, la question était, donc moi personnellement, pour revenir un peu sur mon histoire, en tout cas, donc je suis arrivé à un moment donné dans l'université Bukkyo à Kyoto, où j'ai fait la connaissance d'un professeur vraiment très chouette qui s'appelle Tayama Leshi, et qui en fait était disciple d'un philosophe contemporain qui est maintenant décédé, il est mort en 1997, et qui s'appelait en fait Omori Chozo. Donc c'est en fait un philosophe qui a commencé à écrire en 1950, plus ou moins. C'est quelqu'un qui n'écrit pas des volumes de philosophie, mais qui écrit des articles, qui ensuite, des articles de philosophie, qui ensuite les compulse pour faire des volumes en entier. Après 50 ans de carrière, le personnage a quand même écrit donc 10 volumes en entier, c'est donc plus ou moins un corpus de 5000 pages, ce qui n'est vraiment pas rien. et qui, en fait, est très très fortement influencé par la philosophie anglo-saxonne d'après-guerre. Donc on est clairement dans le débat logique, ou en tout cas le débat épistémologique qui entoure la philosophie analytique telle qu'on la connaît par les auteurs comme Quine, Carnap, Frege ou Russell. Le personnage de Omori Chozo est quelqu'un d'assez intéressant parce qu'en fait, un peu comme moi, en fait, il est en fait à la base un physicien ou un ingénieur. Et donc se pose plus ou moins le même genre de questions que moi par rapport à des questions fondamentales au niveau de la philosophie des mathématiques et de la connaissance humaine. Alors quand on se pose des questions de ce genre, on tombe vite en fait dans la logique. Donc la logique c'est une science qui essaye, je ne sais même pas si on pourrait dire une science, mais en tout cas, elle s'intéresse principalement aux foncteurs. Et je ne vais pas refaire ici toute l'histoire de la logique, ce serait très difficile d'en parler en 2 minutes. Mais donc voilà, en gros, il s'intéresse à ça. Et son œuvre, en fait, est séparée en 3 moments. Qui est l'œuvre de jeunesse, l'œuvre de maturité et l'œuvre de vieillesse. Alors dans l'œuvre de jeunesse, ce sur quoi je me suis principalement occupé pour mon mémoire de maîtrise ici à l'UNB, l'auteur Omori Chozo ne fait qu'écrire ou écrit quasiment exclusivement que sur la logique. Et dans une très large, peut-être, ou même dans une autre mesure, produit donc des écrits de philosophie de la logique. On est donc dans un repère de d'ontologie logique qui pose la question de savoir ce qu'est la logique, pourquoi elle existe, comment elle existe, à quoi est-ce qu'elle sert, et toutes ces questions. Donc on est, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez cet auteur, c'est que on est en fait vraiment face à une philosophie, si pas entièrement, en tout cas à presque quasiment 90% d'une philosophie complètement occidentale en fait. Et on retrouve très peu de japonisation ou de concepts japonais qui qui, je dirais, parfume le texte. Cependant, la seule et unique chose, évidemment, c'est que c'est écrit en japonais. Et donc, fatalement, on efface une japonisation. Et c'est là où il y a tout un débat et il y a toute une recherche à mener, c'est justement de savoir dans quelle mesure la culture japonaise se retrouve dans les textes de Omori Shozo. Bon, je pense que c'est indéniable, mais il faut vraiment pointer du doigt quels sont les apports de la culture japonaise, de ceux qui ne sont, de ce qui serait d'autres apports, par exemple. Mais au-delà de ça, il faut aussi surtout se demander et se poser la question de savoir en quoi le raisonnement ou la pensée omoricienne est différente de la nôtre, justement parce qu'elle serait japonaise. Et ça, c'est une question qui est très 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 difficile à exposer comme ça en 2-3 minutes. Mais il est certain, en tout cas, et ça ça a été la conclusion de mon mémoire, c'était pour répondre à la question, je vais d'abord vous parler de la question. La question, c'était tout simplement de savoir s'il existait donc un apport ou non à la philosophie de la logique ou à la logique dans les œuvres de jeunesse de Omori Shozo. Alors la réponse a été non, en fait. Personnellement, je n'ai trouvé aucun apport direct à la logique, en fait. Mais par rapport à cette réponse, il faut quand même nuancer parce que, en fait, on se rend compte que l'interprétation philosophique de la logique est, elle, proprement nouvelle. Et en fait, elle donne une approche qui ramène la logique à un empirisme pragmatique et également à notre langage historique. Ce genre de pensée n'est pas peut-être complètement original. On connaît très bien le penchant vers ce genre de théorie, dans le deuxième Wittgenstein, si pas pour Russell et pour Frege. Évidemment, ici, il faudrait encore préciser ce qu'il faudrait en dire, mais il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose, et j'essaie, pour ma part, en tout cas, de mettre ces choses en valeur, et j'espère, en tout cas, par ce travail, pouvoir prouver la richesse inconnue de la philosophie qui a actuellement lieu au Japon. J'aime bien, pour ce faire, parler du fait, tout simplement, que tant qu'un livre n'est pas traduit, il n'existe pas. Donc c'est comme si, vous pouvez avoir une personne dans une pièce de verre qui dit plein de choses qui sont très intéressantes, mais tant que la pièce est fermée avec une boîte en verre, vous n'arriverez pas à comprendre complètement ou à comprendre ou peut-être même à supposer ce qu'il dit. Et je trouve ça dommage. Et donc, mon combat est celui d'essayer de créer, un pont philosophique qui ouvrirait des débats intéressants entre les deux cultures et, au-delà des cultures, un débat vraiment intéressant au niveau de la philosophie. Voilà.
Oui, c'est des choses qui, j'ai l'impression, en tout cas en français, se produisent plus en direction de la Chine pour le moment, mais en direction du Japon reste encore un peu plus rare, même si on sent quand même que les temps changent et que c'est en train d'arriver, quoi. Mais je voulais quand même te poser une question par rapport à la langue, même si tu as un peu abordé ça, mais traduire des textes philosophiques japonais, c'est pas forcément chose facile, mais est-ce que tu as l'impression que... Je ne sais pas si ma question est très cohérente, mais oui, je voulais te demander comment tu as abordé la question du langage, de la langue japonaise. Est-ce que tu as peut-être l'impression que la langue japonaise fait que les Japonais pensent différemment que l'Occident, parce que les Occidentaux, parce qu'on a toujours ces affirmations du côté du Japon, d'une sorte de spécificité nippone, qu'il serait différent un peu du reste du monde, et est-ce qu'il penserait d'une manière pratiquement différente que le reste du monde. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Mais à ce point de vue-là, je suis très proche justement donc de l'interprétation philosophique de Wittgenstein qui énonce justement cette vérité, en tout cas dans son deuxième parcours, pas dans son premier. Donc je parle bien ici du deuxième de Wittgenstein qui dit qui reconnaît en fait tout simplement donc cette influence que tu viens de citer et qui dit en fait que donc tout simplement que le monde, enfin que si le monde était différent, les formes de vie et donc les jeux de langage seraient différents. Donc on a clairement une influence du monde sur le langage. Et que si donc les jeux de langage étaient différents, le monde serait perçu également différent. Donc d'après moi, en suivant l'avis de Wittgenstein, et en fait je le cite ici, hein, mais le thème et le langage, donc le thème qui serait le monde, interagissent. Donc quand tu me demandes si le langage japonais donne aux Japonais une perception différente du monde, oui, je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Le problème, c'est de pouvoir argumenter ce genre de choses. Ce sont des thèses philosophiquement fortes qui mettent en jeu et qui restent dans une certaine mesure, en tout cas, à prouver. Et c'est un parti pris que tout le monde n'accepte pas en philosophie. Il faut bien le savoir. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Voilà, pour répondre à ta question.
Ouais, bah c'est une réponse très claire, merci. Et comment toi tu as abordé, parce que tu sais bien que là c'est un peu une question, comme je suis prof de japonais, que peut-être certains de mes élèves ont écouté l'interview. Comment tu as abordé toi-même l'étude de la langue et comment est-ce qu'un étranger, est-ce qu'un étranger peut vraiment s'immerger dans la langue suffisamment pour arriver à, enfin pour la maîtriser suffisamment pour arriver à peut-être appréhender cette façon de penser différente dont on vient de parler?
Alors, je pense qu'il y a toujours une limite. À ce point de vue, le problème de la traduction qu'on retrouve chez Quine est un point de vue très intéressant, philosophiquement parlant en tout cas. Bon, on ne va pas parler de ça ici parce que je risque de faire des erreurs et je ne voudrais pas trahir Quine. Mais je propose d'aller lire ce genre de choses parce que c'est très très intéressant. Donc les problèmes d'intraductabilité et des choses comme ça, ce sont des problèmes philosophiquement très riches et très intéressants. Mais pour plutôt énoncer ça de manière concrète, avec un exemple concret, donc on sait très bien que je suis traducteur. En tout cas, mais donc pour revenir à la question, on sait que, enfin moi c'est en tout cas la politique que j'applique et je pratique, c'est que pour la traduction au niveau professionnel, parce que je suis également donc traducteur au sein du tribunal en fait, où là en fait je traduis des documents donc très très lourds de conséquences, parce que si je me trompe dans la traduction, bah la personne peut prendre entre 5 ou 10 ans de prison en plus, donc c'est quand même très important de ne pas se tromper. Éthiquement parlant, un traducteur ne traduit toujours que vers sa langue, c'est-à-dire qu'il ne traduira jamais vers la langue étrangère. Alors évidemment, il y a des exceptions. Elles sont rares. Ce sont des enfants qui ont, par exemple, évolué dans un monde, dans un contexte enfin, où les deux langues se trouveraient, ça se trouve encore souvent en fait en Belgique, où on trouve des enfants qui évoluent tout autant en néerlandais qu'en français, par exemple. Maintenant, trouver des enfants qui ont évolué vraiment dans un contexte où ils ont eu deux langues, c'est-à-dire par exemple le japonais et le français, c'est un contexte qui est beaucoup plus rare, tout simplement par la distance géographique qui existe entre les deux pays. Je ne pense pas que ce soit juste la question de la distance culturelle. La distance culturelle est produite par la distance matérielle, donc c'est-à-dire spatiale, entre les deux pays. C'est tout à fait normal que les cultures soient très très différentes. Bien qu'évidemment il y a des points communs qu'on pourrait discuter, mais la traduction, il y a toujours, et je pense qu'il y aura toujours, une limite infranchissable où effectivement on perd pied, effectivement on n'arrive pas à trouver le bon terme. Tout simplement aussi parce que parfois la langue elle-même ne le permet pas, pas spécialement parce que on n'a pas les capacités intellectuelles de réfléchir ou de traduire le terme, c'est simplement parce que la langue cible, qui serait ici le français si on parle d'une traduction du japonais vers le français, ne permet pas certaines choses que l'autre langue permet. On connaît très bien par exemple la richesse des idéogrammes chinois qu'on appelle kanji au Japon. On voit très bien ici tout de suite déjà le rapport de perception visuelle qu'on peut avoir directement avec un caractère, donc un kanji, qu'on n'a pas en français. Quand on voit le mot soleil écrit en toutes lettres au tableau, ou qu'on voit le mot Taiyo écrit sur un tableau, le japonais, quand il voit le kanji, voit un dessin qui, dans tous les mots, aura une certaine mémoire de ce qu'est le soleil, même si le soleil n'est pas spécialement utilisé comme étant soleil dans un mot. Mais, j'ai pas comme ça d'exemple en tête, mais il est certain que il y a et il y aura toujours à un endroit où on n'est pas capable d'être comme un japonais. C'est tout à fait impossible. C'est une vieille question philosophique, hein. Est-ce que je peux comprendre un autre? Est-ce que je peux être tout à fait quelqu'un d'autre? C'est difficile à répondre. C'est à quel moment je commence à comprendre une autre personne, à quel moment l'autre personne peut me comprendre. Ce sont des questions profondément intéressantes et très difficiles. Et je pense que à ce jeu-là, ou en tout cas à ces questions-là, le langage japonais n'est pas différent du tout. Et que donc, il y a des moments où on est face à une intraductabilité. Et c'est là où justement tout le jeu et toute l'importance du traducteur qui arrive en fait à minimiser ce problème d'intraductabilité. Alors parfois ça passe par des notes de bas de page très 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 longues, mais c'est comme ça. Je pense que dans l'évolution d'une traduction d'un ouvrage philosophique, le premier passage obligé est clairement une traduction très très littérale, premièrement, qui sera dans une certaine mesure loin du français courant parlé de tous les jours. Et au fur et à mesure des années, si par chance le texte offre vraiment des apports ou des choses intéressantes à dire, une traduction plus littéraire pourra avoir lieu. Mais en même temps, cette traduction littéraire, ce n'est pas parce que elle aura été actualisée, qu'elle aura été présente, que 20 ou 30 ans plus tard, il ne faudra pas de nouveau retraduire le texte. Tout ça simplement parce que le français, la langue française, comme la langue japonaise, est une langue vivante, qui bouge, qui s'enrichit, s'appauvrit de certains termes, et qui dont le sens est perpétuellement en mouvement. Donc une traduction n'est que, dans une certaine mesure, à un moment précis, que ce qu'on a pu faire de mieux, mais qui sera très vite, dans une certaine mesure, obsolète, au final. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds...
Non, ça sonne très bien. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Je pense qu'on a vraiment, on a vraiment couvert les sujets que j'avais envie de couvrir avec toi. Si les auditeurs voudraient en savoir plus sur ton travail, est-ce qu'il y a des lieux particuliers où ils peuvent te trouver sur le net ou
Sur le net, moi je suis sur LinkedIn, donc mon nom c'est Pierre Bonnels. J'ai également une page sur Academia, mm-hmm. où je publie parfois mes articles, mais bon, pour le moment il n'y a pas grand chose non plus. Sinon, d'ici à... ils peuvent toujours me retrouver sur la page de l'ULB, donc du Centre de Recherche en Philosophie, et pour les auditeurs que ça intéresse, le 16 et 17 octobre prochain, j'organise en fait donc un colloque international sur la question de la philosophie cartésienne au Japon et de son influence sur les auteurs japonais. Nous avons déjà, j'ai déjà plusieurs intervenants, dont Augustin Berck, qui n'est pas des moindres, et d'autres personnes très connues dans le milieu de la philosophie japonaise. Mais également la professeure et très illustre Takako Tanagawa, qui est elle-même en fait donc traductrice de Descartes, Leibniz, et qui a produit plusieurs articles à propos de la philosophie cartésienne, qui parle français aussi, ce qui n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours au Japon. Donc voilà, le 16 et 17 octobre à l'ULB. Deux journées entières de débats autour de philosophes japonais qui s'intéressent ou qui ont vraiment été influencés par la philosophie cartésienne.
Il y a déjà je suppose que c'est trop tôt pour avoir un folder ou une page web pour ça.
C'est un peu trop tôt, mais il existe. Donc, de toute façon, la pub est déjà sur la page du Centre de Recherche en Philosophie de l'ULB. Dans les actualités, donc vous avez déjà un onglet qui fait c'est un onglet pour l'appel à communication. Sinon, sur le site www.e-cartésienne.be, vous avez donc notre site. Du groupe belge francophone d'études cartésiennes, où vous trouverez la pub du colloque quand elle sera mise en ligne. Et là, je regarde justement, et je crois qu'ils l'ont mis en ligne hier. Donc voilà. Donc, mais ça va arriver, quoi qu'il arrive. Quoi. Ça va ?
Super, bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur le balado nous parler de tout ça. Un tout grand merci en tout cas.
Mais de rien, c'était un plaisir pour moi également.
Au revoir.